Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, ils sont au bout du rouleau. Les soignants, usés par les sous-effectifs et très inquiets pour cet été, ils étaient des centaines aujourd'hui à manifester. Les fins de mois, difficiles de plus en plus tôt devant la hausse des prix. Une aide inflation va venir soutenir les plus modestes à la rentrée pendant que les prix à la pompe battent de nouveaux records. Plus de 2 euros le litre, aide comprise cette fois. L'affaire du refus d'obtempérer, le conducteur a été placé en garde à vue. Les trois policiers ressortent libres de la leur. Une enquête a été ouverte. La France, championne d'Europe des frais élevés pour incidents bancaires. L'UFC Que Choisir appelle le gouvernement à agir. Le temps demain, très bon pour la nature, un peu moins pour la bronzette, ce sera beaucoup de pluie. En résumé, l'invité politique à 5 jours des législatives, à 22h20, je recevrai Marine Tondelier, candidate de la NUPES dans le Pas-de-Calais et responsable EELV. Et puis, un coup d'œil enfin sur les unes de la presse avant de retrouver la libre antenne.
Europe 1.
La grande souffrance de ceux qui nous soignent, les personnels hospitaliers, se sentent au bord du précipice. Ils étaient appelés à manifester ce mardi par 9 syndicats de soignants. La faible mobilisation d'aujourd'hui ne masque pas la colère profonde des blouses blanches. Devant le ministère de la Santé, Thibault Hue a rencontré des professionnels usés de ne pas pouvoir faire correctement leur métier.
En blouse blanche, parfois un stéthoscope autour du cou, ces soignants appellent à l'aide avec des chants et des pancartes sur lesquels on peut lire « L'hôpital est mort, réanimez-le, votre santé est en danger ». Céline, infirmière et déléguée CGT, est dégoûtée de la profession.
Je passe de chambre en chambre, je donne les médicaments, j'enfonce dans la bouche et je passe au suivant. J'ai pas le temps de m'asseoir sur le lit, lui tenir la main et lui raconter une histoire. C'est terminé ce temps-là. Donc c'est de la maltraitance. Il me reste 10 ans à faire, je me demande où je vais aller travailler. Peut-être que je vais finir par aller vendre des pommes de terre sur le marché, quoi. J'en ai marre de travailler comme ça.
Plus d'effectifs, plus de salaires, c'est aussi ce que souhaite Nicolas. Cet urgentiste voit ses collègues partir un à un.
Les gens fuient l'hôpital pour une question de santé, pour se préserver. Et on est dans la perte de sens au niveau du travail. Moi, dans mes urgences, là, à l'heure où je vous parle, ils sont 5 infirmiers au lieu de 8 en train de travailler. C'est des gens qui vont accumuler de la frustration, ils vont partir. Et c'est partout comme ça dans l'hôpital.
Et sans mesure concrète de la part du gouvernement ces prochaines semaines, ces manifestants en colère le martèlent, ils reviendront dans la rue.
Et à l'hôpital, un service d'urgence sur 5 est menacé de fermeture cet été. Il y aura des morts, c'est ce que disent certains soignants. Emmanuel Macron a annoncé quant à lui une mission flash d'un mois pour livrer un état des lieux de la crise des urgences. Des propositions lui seront remises le 1er juillet. Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français à 5 jours maintenant du premier tour des législatives. Elisabeth Borne annonce une aide inflation en principe pour la rentrée prochaine. Elle sera versée aux plus modestes. Aurélien Fleureau, alors quelle forme prendra-t-elle ?
Alors, la première étape du dispositif sera un versement direct sur le compte en banque des personnes concernées, versement unique dont le montant tiendra compte du nombre d'enfants dans la famille, a précisé aujourd'hui Elisabeth Borne. Pas de montant précis en revanche annoncé à ce stade. Ce matin, la FNSEA et la coopération agricole ont par exemple plaidé pour un chèque alimentaire compris entre 100 et 150 euros. Le chèque alimentaire, c'est ce qui devrait venir ensuite dans un second temps, dispositif ciblé qui permettra, je cite la Première ministre, à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio. Là aussi, les fédérations agricoles espèrent un fléchage vers des produits locaux, même si ce chèque alimentaire, eh bien, il est sur la table depuis des mois et jusque-là, il apparaît très compliqué à mettre en place. Et puis, il faut évidemment le financer. Autre réponse à l'inflation, le dispositif attendu pour les gros rouleurs sera en place à la rentrée. Et puis, la ristourne de 18 centimes à la pompe, eh bien, elle sera prolongée au-delà du 31 juillet.
Merci Aurélien Fleureau. L'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom malgré cette ristourne gouvernementale de 18 centimes par litre d'essence en métropole. Eh bien, les prix à la pompe sont encore repassés au-dessus de 2 euros le litre. En l'espace d'une semaine, les derniers chiffres de Bercy révèlent des hausses de 13 centimes pour le gazole, de 14 centimes pour le sans-plomb 95. Victor Pourchet l'a vérifié dans une station-service. Les automobilistes ont les yeux rivés sur le compteur lorsqu'ils font le plein.
Sur les panneaux lumineux qui annoncent les prix, le chiffre 2 est bien de retour, même pour le gazole dans cette station-service. Lucie fait le plein de sa petite citadine avec le sourire malgré le ras-le-bol.
Franchement, c'est abusé. C'est une fortune. Regardez, pour le plein du Smart, j'en ai pour 53 euros. Avant, je tournais entre 40 et 45 euros.
Fataliste, Alain l'est aussi avec ses 2 heures de trajet quotidien. Alors à la pompe, le sexagénaire fixe le compteur, pas convaincu par l'aide de 18 centimes du gouvernement.
Ça change rien, même ce qu'ils nous ont fait, les quelques centimes qu'ils nous ont fait, ça sert à rien. Moi, je regarde même plus le prix, je mets de l'essence parce qu'il faut que je roule. C'est tout. Hein. Là, je vais bientôt être à la retraite, je vais être content.
Ça fera moins de kilomètres.
Ah oui, beaucoup, beaucoup.
Alain compte surtout changer sa voiture. Trop gourmande, dit-il. C'est déjà fait pour Clément. La sienne roule désormais au bioéthanol.
C'était vraiment le bon moment. Bah, je regarde là, moi, je suis à 83 centimes 9. Quand sur le 95... Ah oui, d'accord. Bah, je suis à un tiers du prix sur mon carburant, donc je suis hyper content.
De quoi économiser jusqu'au grand départ en vacances, car aucun de ces automobilistes n'imagine une accalmie des prix d'ici là.
Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voit le prix de l'essence grimper. Alors pourquoi ce décollage brutal des tarifs dans la seule semaine écoulée ? Réponse d'Olivier Gantois, président de l'UFIP, Union des industries pétrolières.
Comme la semaine dernière, l'embargo européen a été confirmé. Ça a rendu le marché du gazoil encore plus nerveux puisque l'Europe importe à peu près la moitié de son gazoil de la Russie. Et alors, concomitamment sur le sans-plomb, c'est la demande américaine qui a tout à coup accéléré encore plus. C'est ce qu'on appelle la « driving season » aux États-Unis, c'est-à-dire le moment où les Américains conduisent plus qu'à l'accoutumée. Et cette hausse de la demande aux États-Unis a entraîné en fait une hausse des prix, y compris en Europe.
Olivier Gantois avec Geoffrey Branger. Un immeuble en chantier s'est en partie effondré. Ça s'est passé en fin d'après-midi à Vincennes, tout près d'une école maternelle. Un ouvrier présent sur le chantier a été légèrement blessé après avoir sauté par peur. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Dans l'affaire du refus d'obtempérer maintenant, l'état de santé du conducteur grièvement blessé samedi par des policiers à Paris a été jugé compatible avec son placement en garde à vue ce mardi. Il doit répondre de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Trois policiers étaient en garde à vue. La passagère du véhicule a succombé à leur tir. Ils ont quant à eux été libérés, Gladys Laffitte, et aucune charge à ce stade n'a été retenue contre eux.
Et non, en revanche, ils pourront être mis en examen ou être placés sous le statut moins incriminant de témoin assister plus tard dans la procédure si des éléments l'imposent. Mais en l'état, ils ont été relâchés pour poursuite des investigations, dit le parquet de Paris. On peut donc supposer qu'à ce stade, les enquêteurs estiment que les tirs effectués entraient dans l'un des cinq cas légaux, comme le refus d'obtempérer ou encore la légitime défense. Le déroulé des faits doit évidemment être précisé minute par minute. C'est pour cela qu'une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui. Un juge d'instruction indépendant va enquêter avec plus de moyens. Il est déjà dans l'attente des résultats d'examen technique. Un appel à témoins a aussi été lancé pour permettre de retracer avec précision les conditions d'usage de leur arme par les policiers. Du côté du conducteur, il est donc en garde à vue, en capacité dorénavant de répondre aux questions. Touché au thorax, il conduisait sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, alors qu'il purgeait une peine sous le régime de la semi-liberté. Il fait lui aussi l'objet d'une enquête, notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Avec Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, cette affaire continue d'agiter la classe politique. À quelques jours maintenant du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon a mis le feu aux poudres hier en déclarant sur Twitter que la police tue. Insulter les policiers et les gendarmes déshonore ceux qui veulent gouverner. Voilà ce que lui a répondu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et ce soir, Jacques Serret, eh bien le leader des Insoumis et de la NUPES, assume totalement ses propos.
Oui, pour Jean-Luc Mélenchon, je le cite, ce n'est pas normal que l'on tue quelqu'un parce qu'il y a refus d'obtempérer. Le leader des Insoumis dit vouloir réformer la police si jamais il devenait Premier ministre pour changer la doctrine d'usage de la force. Une nouvelle affaire qui, après le chaos au Stade de France il y a 10 jours, vient percuter la campagne des législatives. Elisabeth Borne estime que le leader des Insoumis s'en prend systématiquement à la police. Elle dénonce des propos outranciers. Jean-Luc Mélenchon va trop loin, a aussi condamné le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a lui pas encore réagi, mais ce n'est qu'une question de jours. Jeudi, le chef de l'État effectuera un déplacement dans le Tarn, à Gaillac, sur le thème de la sécurité. Et selon nos informations, sa stratégie devrait être la dramatisation, montrer une certaine forme de soutien aux forces de l'ordre, tout en expliquant que la justice fera son travail. Avec ses propos, Jean-Luc Mélenchon nous aide beaucoup, analyse un conseiller. La Macronie espère en fait que cette séquence relance un vote utile en faveur de la majorité présidentielle.
Jacques Serret, une victoire, en tout cas pour la NUPES. Rien sur le verdict des urnes, bien sûr, mais une victoire ce soir sur le terrain juridique. Avant les législatives, le Conseil d'État donne tort à Gérald Darmanin qui souhaitait comptabiliser les résultats à gauche, parti par parti. Mais pour les sages, la nouvelle Union populaire écologique et sociale doit être considérée comme une nuance politique à part entière, autrement dit, comptabilisée en un bloc. On fera d'ailleurs réagir à ce sujet notre invitée à 22h20 sur Europe 1, Marine Tondelier, candidate NUPES dans le Pas-de-Calais et responsable nationale d'Europe Écologie Les Verts. François Hollande et Julie Gayet se sont dit oui, l'ancien président de la République et l'actrice sont mariés dans la stricte intimité samedi dernier à la mairie de Tulle, en Corrèze, à 67 ans. Il s'agit du premier mariage de François Hollande. Sur votre relevé de compte, ça ressemble à la double peine. Les frais d'incidents bancaires atteignent des sommets en France. L'UFC Que Choisir a enquêté. Les banques françaises se font taper sur les doigts. Elles sont les tristes championnes d'Europe de la facturation en cas d'incident bancaire. L'association de consommateurs demande au gouvernement de passer à l'action, Maud Descamps.
En effet, les frais bancaires en France sont plafonnés à 20 euros par prélèvement refusé. C'est 17 fois plus qu'en Allemagne, par exemple, 8 fois plus qu'en Italie. Il s'agit des frais prélevés lorsqu'un opérateur comme EDF, par exemple, ou votre opérateur téléphonique, prélève le montant de votre facture sur votre compte, mais que le prélèvement est refusé par votre banque, faute de réserves suffisantes. Pour Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, il est urgent que le gouvernement s'empare du sujet pour limiter ces frais.
Si simplement, on baissait ces tarifs pour les faire correspondre à 8 euros, qui est le montant de la commission d'intervention, qui est un autre frais d'incident bancaire, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 1 milliard d'euros tous les ans. On serait encore au-delà des frais qui sont pratiqués, par exemple, en Belgique et même en Espagne ou en Italie, permettant justement aux consommateurs d'avoir du pouvoir d'achat supplémentaire dans cette période de crise très importante.
L'association de défense de consommateurs a calculé que la durée moyenne des interventions faites par une banque en cas de rejet de prélèvement était inférieure à 1 minute 30, donc une intervention très courte, facturée très cher.
Maud Descamps. Après les incidents autour du Stade de France en finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier, la France invite les supporters britanniques à déposer plainte. Les victimes d'infractions pourront les signaler à la justice française en remplissant un formulaire spécial. Ce sont ceux qui paradent le moins qui brillent le plus. Si c'était un proverbe, il s'appliquerait très bien à Rafael Nadal, vainqueur pour la 14e fois de Roland-Garros. Le champion espagnol a regagné son île natale de Majorque, mais en toute discrétion, Guillaume Dominguez, pas d'acclamation, pas de haie d'honneur.
Non, effectivement, il n'y aura ici ni fête ni cérémonie. Rafael Nadal est arrivé tard la nuit dernière et a rejoint discrètement sa villa de Porto Cristo. Une attitude que comprennent très bien les habitants de l'île. Gabriel habite Manacor, la ville natale du champion. Il m'expliquait tout à l'heure que ça fait partie de sa personnalité.
Vous savez, on a l'habitude. Quand il vient ici, c'est pour se déconnecter. Il s'y sent très bien parce qu'il passe inaperçu, particulièrement à Manacor. Ici, les gens l'admirent, mais ne veulent pas le déranger.
Une habitude qui caractérise surtout la relation entre Rafael Nadal et les Mallorquins. Un autre habitant de Manacor, Juan, m'expliquait que c'est comme ça depuis toujours.
Je me souviens, lorsqu'il avait gagné son premier Roland-Garros, tout le monde pensait qu'il allait faire une grande fête à son retour. Il a simplement fait un repas avec son père, sa mère, sa sœur et sa femme.
Et selon son entourage, Rafael Nadal va maintenant se concentrer sur son entraînement et sur ses soins médicaux à 3 semaines du début de Wimbledon.
Guillaume Dominguez à Majorque pour Europe 1. Allez, pour finir, un petit tracas en moins au quotidien. Le chargeur de smartphone universel, c'est pour bientôt. L'Union européenne a enfin réussi à l'imposer à l'automne 2024. Tous les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques auront le même chargeur filaire universel. Au grand regret d'ailleurs d'Apple, qui continuait de s'y opposer, mais qui devra, comme tous ses concurrents, se soumettre à cette règle. Le temps pour demain, mercredi, il se dégrade, Marlène Duret. Au moins, ça va faire du bien à nos nappes phréatiques, c'est ce qu'on peut se dire.
Absolument, Alexandre. Le temps se dégrade jusqu'en Méditerranée, d'ailleurs, où le ciel sera laiteux. Et c'est vrai que dans un contexte de sécheresse, cette perturbation pluvieuse qui arrivait cet après-midi, elle est la bienvenue. Elle va traverser presque toutes les régions. Elle a commencé par la Bretagne et va continuer cette nuit à balayer toutes les régions du quart nord-ouest. Demain, ces pluies vont circuler toujours très vite, en étant parfois soutenues, d'ailleurs, sauf sur la partie sud-ouest, Aquitaine, sud-midi. Midi-Pyrénées, Sud-Massif central, voilà. Là, les pluies s'annoncent peut-être un petit peu moins marquées, plus localisées, mais c'est vrai qu'au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, disons, des pluies parfois assez soutenues, quand même, assez fréquentes. Et donc, que vous voulez dire, oui, que les averses prendront le relais au fur et à mesure que cette perturbation va passer. Et des averses parfois orageuses sont attendues entre la Champagne, le bassin parisien, le nord des Pays de la Loire, le centre-val de Loire, le nord de l'Auvergne, la Bourgogne et le Jura, tandis que des éclaircies reviendront entre le Nord-Pas-de-Calais et les régions proches de la Manche, la Bretagne, jusqu'au Poitou-Charentes et au Nord-Aquitaine, donc par l'ouest. Et ça nous annonce d'ailleurs une amélioration pour les jours qui viennent, au niveau de la luminosité, j'allais dire, pour ceux qui aiment le soleil.
Bon, en tout cas, avec tout ce que vous venez de nous dire, il fera moins chaud demain, Marlène.
Voilà, de la pluie et forcément les températures pointent vers le bas. Alors je voulais vous dire quand même qu'aujourd'hui, le Luc en Provence affichait 7 jours consécutifs à plus de 30 degrés. Donc c'est quand même la série la plus précoce jamais observée, c'est intéressant, il a fait chaud au Luc, il a fait chaud d'ailleurs tout autour de la Méditerranée jusqu'à 34 à Cannes. Et donc demain, prévoyez 17 à 22 degrés généralement, et puis en allant vers la moyenne vallée du Rhône et jusqu'autour de la Méditerranée, ça peut monter encore jusqu'à 28, mais on n'atteindra plus les 30 degrés, il fera 21 à Paris.
Ça va revenir. Bon, merci oui, beaucoup Marlène Durel, et vous revenez aussi à minuit sur Europe 1. On se retrouve dans une respiration avec Top à Wall Street. Et puis, notre invitée politique, Marine Tondelier, candidate de la NUPES dans le Pas-de-Calais. À tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe.
Et bonsoir Didier Hamo.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Top à Wall Street. Wall Street qui reste hésitant alors que le baril de pétrole repart vers de nouveaux sommets.
Même si ça remonte un petit peu, le Dow Jones reprend 0,8%, 33 181 points. Le Nasdaq plus 0,9%, 12 175 points. La vedette, oui. C'est le pétrole encore toujours au-delà des 120 dollars le baril. Goldman Sachs vise désormais 140 dollars en raison de la guerre en Ukraine qui risque de durer. Et ça donne les valeurs pétrolières en forte hausse ce soir. Exxon plus 4% à 103 dollars. Chevron plus 1,9% à 180 dollars. En raison de l'impact de l'inflation sur le secteur de la distribution, là, ça baisse pas mal du côté de Target après son avertissement sur les résultats. Le distributeur perd 2,4%. Du coup, Walmart perd 1,3%. Amazon moins 1,4%. Et puis, du côté des valeurs de technologie, c'est assez hésitant. On a Tesla qui reprend 0,4%. Apple plus 1,8%. Twitter qui se cale sur les 40 dollars. Google est stable. L'euro campe sur les 1,07 ce soir face au billet vert.
La Bourse de Paris, quant à elle, a reperdu la quasi-totalité de son rebond d'hier.
Oui, il faut dire que c'était très calme hier. Après une hausse d'1%, le CAC 40, effectivement, a reperdu 0,7%, 0,74% exactement. De retour sur les 6500 points, ça retombe sur pas mal de valeurs. Hein. Casino, moins 4%, Trigano, moins 3%, Dassault Systèmes, moins 2%, à 38,65€. Là, le broker Jefferies ne vise plus qu'un cours de 33€ sur Dassault Systèmes contre 40€ auparavant. Puis de grosses valeurs comme L'Oréal, Publicis, Rémy Cointreau redonnent 1 à 2% en moyenne.
Exception du jour, et on en parlait il y a quelques minutes dans ce journal, Didier, les valeurs pétrolières qui terminent en nette hausse.
Oui, c'est logique, avec un baril qui flambe à plus de 120 dollars, ça donne tout le secteur en hausse. CGG plus 7%, Technip Énergie plus 5% après un gros contrat en Allemagne, Vallourec plus 2,8% à 13,83€, Total plus 0,4% à 55,71€. Les autres places financières sont assez hésitantes en Europe. Le DAX repère 0,6%, Bruxelles moins 0,4%, Madrid est pratiquement stable. Le CAC 40 a reperdu 0,74%. 6500 points tout rond.
Merci Didier Hamo.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité politique sur Europe 1, nous sommes à 5 jours du premier tour des législatives. Bonsoir Marine Tondelier.
Bonsoir.
Candidate de la NUPES, Nouvelle Union Politique Populaire, écologique et sociale dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, co-trésorière nationale d'Europe Écologie Les Verts. On vote donc, je le disais, dimanche prochain pour le premier tour des législatives. Vous avez remporté une petite victoire ce soir à la NUPES, Marine Tondelier, victoire juridique.
C'est ça, il y avait une manœuvre du gouvernement qui consistait à nous interdire dans les... Vous savez, quand les résultats seront proclamés dimanche, on voulait pas que les candidats à NUPES, leur score soit proclamés comme des scores NUPES. Mmh. Et non, le gouvernement voulait que ce soit des scores PS d'un côté, écologistes de l'autre, etc. Et donc, on aurait eu des scores divisés par, en quatre paquets. Là où le gouvernement, pour sa propre formation politique, hein, leur alliance qui s'appelle Renaissance avec La République En Marche, le Modem, Horizon, etc. Eux, ils s'étaient octroyés ce droit d'avoir un seul paquet avec tous les résultats. Et donc, vous auriez eu des résultats bien plus importants pour leur formation que pour toutes les autres. C'était une petite manœuvre politique qui ne trompait personne. Et ce que nous disions, c'est que ça portait atteinte à la sincérité des résultats qui seraient proclamés. C'est ce que le Conseil d'État déclare. Il nous donne raison. Donc voilà, un échec juridique pour Emmanuel Macron. C'est quand même choquant de la part d'un président d'essayer de manipuler comme ça les résultats.
Mmh. Marine Tondelier, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous approuvez Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit la police ? Je rappelle brièvement que ces propos interviennent après ce refus d'obtempérer à Paris. Les policiers affirment qu'on leur a foncé dessus. Ils ont ouvert le feu. Une automobiliste a perdu la vie. La police tue, dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ces propos ?
Je trouve quand même incroyable que la polémique tourne autour des propos de Jean-Luc Mélenchon.
C'est alors un petit peu lui qui l'a lancé, pardonnez-moi.
Oui, mais en fait, il met le doigt sur un problème qui est réel. Il le fait à sa manière, avec son style qu'on connaît. Mais il y a eu, en 4 mois, 4 personnes mortes suite à des refus d'obtempérer. Il y a 25 000 refus d'obtempérer par an. Hein. Ça arrive malheureusement souvent. 290 par an à peu près qui donnent lieu à des ouvertures de feu. Mmh. Et normalement, un refus d'obtempérer, ça se traduit par soit de la prison, ça peut aller jusqu'à 3 ans, soit une amende jusqu'à 75 000 euros, retrait de permis, etc. Mais pas par une balle dans la tête et surtout pas par une balle dans la tête de la passagère qui ne conduisait même pas la voiture. Donc je ne dis pas que c'est de la faute de ce policier, c'est une enquête qui le montrera. Moi, je ne suis pas enquêteuse, mais mm-hmm. je me dis que quand ça arrive 4 fois en 4 mois, c'est à Gérald Darmanin qu'il faut poser la question et pas à Jean-Luc Mélenchon.
Alors, comme vous venez de le souligner, Marine Tondelier, nous n'avons pas les résultats de cette enquête concernant ce refus d'obtempérer de samedi dernier, mais au-delà même de ces résultats qu'on attend, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il dit la police tue, c'est toute une institution qui se sent légitimement visée, c'est une généralisation.
Mais vous savez, il y a aussi beaucoup de policiers qui sont pas très d'accord avec la manière dont ça se passe en ce moment. Et c'est pas de la faute des policiers de terrain, ces polémiques, c'est de la faute des consignes qui leur sont données. Je vous donne un petit exemple qui va parler à beaucoup de personnes qui ont déjà participé à des manifestations. Le gaz lacrymogène, depuis 1993, est interdit d'utilisation dans tous les conflits armés dans le monde. Depuis 1993, c'est une convention qui a été signée à Paris. Comment expliquez-vous qu'en France, contrairement à la plupart des autres pays dans le monde, sauf la Turquie, la Chine, de grandes démocraties, utilisent encore du gaz lacrymo dans des manifestations, non pas sur des militaires comme dans des conflits armés, mais sur des familles, sur des enfants, ou sur, il y a encore quelques jours, des gens qui voulaient prendre le train, qui n'ont plus de train, qui essayent de monter dans un bus de substitution. Mmh. Il y a une vraie dérive, par exemple, dans le maintien de l'ordre, il y a une doctrine qui ne va pas, on le sait. On sait que l'IGPN, qui est la police des polices, qui fait les enquêtes dans les cas comme celui dont on discute, est aussi beaucoup remise en question, parce qu'elle devrait être indépendante et pas composée de policiers. C'est des sujets qui sont sur la table depuis des années, on ne nous répond pas, et des gens comme Gérald Darmanin qui sont présentés comme des experts soi-disant de la sécurité, qui en réalité, les experts de la sécurité, hein, qu'ils soient de droite ou de très très droite depuis des années, ont surtout baissé les postes et baissé les moyens, c'est leur résultat. C'est leur fiasco. Et donc que Gérald Darmanin et le préfet Lallement ne soient pas inquiétés plus que ça, alors qu'en plus ils ont menti dans l'affaire du Stade de France, encore une fois récemment, ça fait beaucoup d'affaires en une semaine, et qu'on se concentre sur est-ce que Mélenchon aurait dû ou pas tweeter ça. Moi je souhaite que ce soit les vrais responsables qui répondent. Et encore une fois sur l'affaire en question, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, une enquête le dira.
Et c'est
Mais quand ça
de
fait
le,
4
de
fois
rappeler.
En 4 mois, on pose la question.
Ouais, voilà. Au-delà de ces propos qui ont choqué, c'est une évidence de nombreux responsables politiques, sur le fond, Jean-Luc Mélenchon appelle en fait à quoi ? À revoir les conditions de la légitime défense pour les policiers. Est-ce que c'est son point ? Est-ce que c'est son sujet ?
Je pense qu'il pose un sujet, mais un sujet que beaucoup de Français se sont posés eux-mêmes, notamment, je pense aux personnes qui ont manifesté, nous, les militants politiques, ça fait des années qu'on manifeste, et on voit bien que on ne manifeste plus dans les mêmes conditions de sécurité dans lesquelles on manifestait il y a quelques années. On n'emmène plus nos enfants dans les manifestations, par exemple, alors que ça devrait être des moments festifs, comme ça l'était avant. Et c'est pas que de la faute d'abrutis qui viennent semer la zinanie dans les manifestations, c'est aussi parce que la manière dont elles sont encadrées par la police est de plus en plus violente. Et encore une fois, c'est pas les gens qui assument ce maintien de l'ordre, c'est les consignes qu'on leur donne. Donc oui, il y a une question. Et les gilets jaunes qui manifestaient pour la première fois ont été effarés, se sont pris cette violence aussi en pleine poire, eux qui arrivaient en colère et ils s'attendaient pas à ça. Donc il y a un sujet là-dessus qu'il faut traiter, et y compris en mettant des gens spécialisés dans le maintien de l'ordre dans ces manifestations. Aujourd'hui, c'est des policiers ou des gendarmes traditionnels qu'on met là, qui n'ont pas demandé forcément ça, qui ne sont pas forcément formés et qui se retrouvent aussi assez démunis. Donc il y a un problème qui met, je pense, aussi mal à l'aise beaucoup de forces de l'ordre. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis anti-police, bien au contraire, hein, je peux vous le dire.
Vous parlez de manifestations, Marine Tondelier. Les personnels soignants étaient aujourd'hui dans la rue. Ils se disent physiquement à bout. Ils réclament des moyens, des effectifs. Vous avez dans votre programme des mesures de soutien au service public?
Bah écoutez, moi j'ai été présidente de l'hôpital à Hénin-Beaumont pendant 6 ans, hein, dans le précédent mandat, et j'étais effarée de voir dans quelles conditions ils travaillaient. Alors bien sûr qu'en tant qu'élu, on était à leur côté, qu'on a énormément travaillé pour faire tout ce qu'on pouvait pour améliorer leur quotidien. Mais quand vous fermez 100 000 lits en 20 ans, bien sûr il y a plus d'ambulatoires, il y a peut-être besoin de moins de lits, mais 100 000 lits fermés en 20 ans, des manques de personnel criants, ça conduit aujourd'hui à faire en sorte que les personnels soignants qu'on a applaudis tous les soirs à 20h, dont on a dit qu'on leur devait une reconnaissance éternelle, aujourd'hui ne peuvent pas partir en vacances. À Saint-Brieuc, par exemple, on est en train de leur proposer des primes de 350 euros pour renoncer à leurs vacances. Je discutais la semaine dernière en porte-à-porte avec une soignante qui, on lui a accordé ses 2 semaines de congé. Elle a beaucoup de chance parce qu'elle a des enfants, donc on a dit qu'elle était prioritaire. Mais elle a 2 semaines de congé. Par contre, on lui dit qu'en échange, il faut qu'elle travaille le week-end du début de ses congés et le week-end de la fin des congés. Sauf que sa location qu'elle paye, évidemment, elle va du samedi au samedi, donc elle perd quasiment 4 jours de vacances. Et ça, en fait, on ne peut pas dire qu'on considère les soignants et leur imposer ça. Donc, où sont les promesses sur les recrutements? Évidemment, ça prend du temps de former quand on n'anticipe pas, mais il y a quand même du travail à faire là-dessus. Et ces soignants, ils méritent de la reconnaissance et pour l'instant, on ne leur accorde pas.
Une mesure pour le pouvoir d'achat. Elisabeth Borne annonce une aide inflation. Elle sera versée en principe à la rentrée. Alors, pour les plus modestes, vous feriez quoi, vous, si vous remportiez dans quelques semaines ces législatives?
Bon, moi, les nouvelles promesses, en général, à 2 jours, 3 jours du premier tour, je m'en méfie. Je préfère écouter celles et ceux qui ont un programme constant en la matière depuis des mois.
Alors justement.
Et donc, nous, en l'occurrence à gauche, évidemment qu'on veut une revalorisation du SMIC à 1500 euros net dès l'été, que ce ne sera pas juste un impact pour le SMIC, mais pour tous les revenus qui sont indexés. On lancera d'ailleurs des grandes négociations de branches pour que tous les salaires en dessous de 4000 euros soient revalorisés. On souhaite également un blocage immédiat des prix sur tous les produits de première nécessité, qu'ils soient alimentaires, le carburant, l'énergie. On souhaite également revaloriser un certain nombre de minima sociaux, dont l'allocation d'adultes handicapés, le RSA, etc. Et ce qu'on veut, en fait, c'est que plus aucun Français ne vive en dessous du pauvreté. Donc plus aucun Français en dessous de 1063 euros par mois, qu'ils aient moins 25 ans et aujourd'hui pas accès au RSA, qu'ils aient des petites pensions, qu'ils soient au minimum vieillesse. On ne peut pas laisser des gens aujourd'hui en dessous de 1063 euros. Et quand on est aujourd'hui dans un pays avec 8 millions de Français qui relèvent de l'aide alimentaire, on ne peut même pas parler de pouvoir d'achat. On est plutôt dans la dépendance que dans le pouvoir.
Merci beaucoup Marine Tondelier, candidate de la nouvelle Union populaire économique et sociale.
Écologique, n'oubliez pas le E, il me tient très fort à cœur.
Écologique, oui, économique aussi, puisqu'on vient d'en parler, mais absolument, vous avez raison. Merci beaucoup Marine Tondelier, candidate en effet dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais et co-trésorière nationale Europe Écologie Les Verts. On va marquer une petite pause avant de découvrir les unes des quotidiens demain matin et le retour d'Olivier Delacroix. A tout de suite sur Europe 1. Les unes de la presse, donc, 22h28 sur Europe 1. On vous parle ce soir dans ce journal qui vient de s'achever, de cette nouvelle flambée des prix à la pompe. Et voici cette vieille carcasse de bagnole à la une de Libé. L'auto stop. Elle stoppe pourquoi? Eh bien parce que le Parlement européen s'apprête à voter ce mercredi l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035. Ce serait évidemment une révolution pour la filière automobile. C'est un point essentiel du Green Deal du Parlement européen, mais une révolution qui peine, une industrie automobile qui peine à anticiper ce virage. Les législatives en approche et les visages inquiets d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne à la une de 20 minutes. Les macronistes concurrencés par la NUPES dans les sondages qui pourraient perdre leur majorité à l'Assemblée. Il y a dans l'air comme l'ombre d'un doute. Alors que faire ? Eh bien, le gouvernement lâche du lest. C'est la une des Échos. À quelques jours des législatives, donc, la Première ministre a annoncé une revalorisation de 4% des pensions dès juillet. Une nouvelle aide sera versée en septembre pour les plus modestes. Les agriculteurs réclament un chèque alimentaire pérenne. Enfin, à la une de la Croix, les viols en Ukraine, un délicat travail d'enquête. Les investigations sur les viols commis par des soldats russes heurtent à l'ampleur de la tâche et au silence des victimes. Voilà pour les unes des quotidiens demain matin. On va donc marquer une pause cette fois avant de retrouver la libre antenne d'Olivier Delacroix. A tout de suite. Europe 1. Et ben voilà, elle a fini par passer cette pub à 22h31. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver, après ce week-end de Pentecôte, Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir mon cher.
Je vous voyais réagir Olivier là tout à l'heure à l'ombre du studio Coluche sur ces sondages de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je ne me trompe pas cette fois-ci, qui sont très bien placés dans les sondages, qui pourraient obtenir une majorité à l'issue de ces législatives.
Et c'est assez incroyable de voir tout à coup tous ces hommes, toutes ces femmes se mettre d'accord et être d'un seul coup amis, prendre des photos, selfies, alors qu'il y a quelques semaines, me semble-t-il, pendant la présidentielle, il y avait quelques mots d'oiseaux qui allaient... Voilà, envers les uns et les autres. C'est la magie de la politique.
C'est la question qu'on s'est tous posée. Que ne l'ont-ils fait pour la campagne présidentielle ? Mais ils répondent à raison qu'effectivement, on est sur un scrutin d'une nature tout à fait différente. On est sur l'incarnation d'un homme ou d'une femme pour la présidentielle. Là, c'est très différent, malgré tout.
Oui, sauf que plane l'ombre d'un homme sur cette élection législative. Vous savez de qui on parle, de l'ami de la police.
D'accord,
du meilleur pote des policiers en ce moment. D'ailleurs, je pensais en fait au prochain contrôle routier, comment ça se passerait pour notre futur, enfin en tout cas dans ses rêves, futur Premier ministre.
Je ne suis pas allé jusqu'à ces spéculations.
Mais je me suis posé la question. Va-t-il encore hurler « Je suis la République, c'est moi la République » ? Je pense qu'il y... Ouais, peut-être qu'il la mettra peut-être en veilleuse, à mon avis. Mais enfin, bon, voilà. Oui, j'ai réagi parce que je trouve toujours assez incroyable ces jeux politiques et ces jeux d'alliance avec des gens qui ne peuvent pas se... je vais vous faire une vraiment... On m'a parfois dit « Pourquoi tu ne fais pas de la politique ?» Avec ce que je traite et tout, quoi. Mais je suis incapable de faire de la politique. D'abord, parce que je crois que quand on fait de la politique, il faut accepter qu'on vous critique, qu'on vous insulte.
C'est une exposition extrêmement violente,
voilà.
Médiatiquement,
et
bien
moi,
sûr.
Je suis incapable de faire ce genre de choses. Donc déjà, c'est mort. Vous voyez ? Voilà. Bon, je veux vous dire, vous ne me verrez jamais me présenter à une élection politique.
En tout cas, vous êtes Alexandre ? Vous êtes un fin observateur de la vie politique.
Ah mais oui, ça m'intéresse. Bon. C'est le genre humain qui m'intéresse dans tout ça.
Et vous irez voter dimanche.
Et j'irai voter dimanche, bien évidemment. Et je pense que les gens sont passionnés aussi par le genre humain dans la politique. Avant tout, je crois que les idées occupent une partie de leur réflexion. Mais il y a aussi... j'entendais notamment le maire de Grenoble, que j'adore, vous le savez, déclamer son amour pour notre futur Premier ministre. Et voilà, ça me faisait rire. Voilà. Eh bien écoutez, comment ça va vous autrement les vacances, ça va très bien.
Écoutez, elles sont derrière, mais elles ont été réparatrices.
Barcelona.
Réparatrices, mais oui.
C'était bien.
On a refait le plein, quoi.
Vous avez vu des beaux groupes, de bons groupes.
Oui, de bons groupes de rock, en effet.
C'est sympa l'Espagne.
Oui, c'est très sympa.
J'aimerais bien habiter en Espagne.
J'y retournerai bien demain.
On est très bien ici aussi
dans le studio Coluche.
Exactement.
Vous le confirmez. Bon.
Alors peut-être que nos auditrices et nos auditeurs se demandent combien de temps va durer cette petite emplette.
Alors ça, écoutez, c'est vous qui en jugez. C'est à vous maintenant.
Écoutez, je vous donne rendez-vous à 23h pour votre point, mon cher Alexandre, et ravi que vous soyez revenu, même si votre remplaçant était charmant.
Eh bien, plaisir partagé, Olivier.
Très bien, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.